Onde Noire, deuxième partie d'émission. Bah, décidément, je confonds les éditions et les émissions. Remarquez, pour une admission littéraire, c'est pas trop grave. Jacques, nous allons rester dans le sud de la France et même très, très, très près.
Voilà, effectivement, parce que le roman dont on va parler maintenant s'appelle « Une ville en mai ». Il est écrit par Patrick Reynal et publié aux éditions de l'Archipel. La ville, c'est Nice. On n'a pas souvent l'occasion de parler de romans qui se passent à Nice, on va donc en profiter.
Sauf quand on parle des romans de Patrick Reynal, parce que celui,
oui,
par
voilà,
contre,
bien sûr, voilà.
Il en publie non plus pas tous les ans. Donc.
Et si cette ville en mai, c'est Nice, le mai en question, c'est celui fameux de 1968. Peu de gens imaginent que mai 68 a été aussi mouvementé près de la baie des Anges, même si par ici, dans la zone d'écoute d'Agora Côte d'Azur, il y en a pas mal qui s'en souviennent. Ce printemps fort animé auquel Patrick Reynal a lui-même participé quand il était étudiant, donc en cette année 68. Alors au début du roman, le narrateur Frédéric, qui s'est exilé en Afrique depuis 10 ans, revient à Nice pour retrouver sa fille qui a disparu depuis quelque temps, en plein ce mois de mai, justement. Et la ville est bien différente de celle qu'il avait laissée, c'était dans les années 50, donc, du coup. Une ville à chaud et à sang, en proie, elle aussi, à la révolte. Et du coup, Frédéric, il va se retourner vers son vieil ami, un flic, le commissaire Pancrazi, qui est un ancien DRG, pour l'aider à retrouver sa fille, tout en continuant lui-même son enquête de père, disons. Chercher sa fille va lui permettre aussi de se retrouver lui-même, mais ça, il ne le sait pas encore. Nous, oui, parce qu'on a lu le livre, enfin, c'est tout moi.
Les auditeurs,
non, pas encore, en tous les cas. Une recherche qui mènera le flic Pancrazi et son jeune adjoint Casanova, ainsi que le père, de la fac de lettres jusqu'au beau quartier de la colline de Cimier, des zones de l'Est, l'Ariane et son incinérateur, à la promenade des Anglais, ses palmiers et ses hôtels de luxe. On va donc voir un peu tout le Nice, ou tous les Nice, en fait. Et mais aussi, ils iront des amphithéâtres d'une université, disons, tonitruants, aux salles d'interrogatoire, un peu moins tonitruantes, quoique, du commissariat de l'avenue Fauche. L'assassinat d'un prof de cette faculté, disons, un peu d'extrême droite, pas la faculté, le prof, va évidemment un peu perturber leur enquête.
Un peu.
La belle idée de Patrick Reynal dans ce roman, c'est d'avoir fait de son protagoniste un homme de droite, vaguement gaulliste, disons, qui a des valeurs établies depuis bien longtemps, toutes celles que les jeunes de l'époque rejettent. Enfin, les jeunes qui manifestent, évidemment, certains, peut-être pas tous. Je lis juste un tout petit extrait. J'avais bien lu dans Le Figaro que toute cette histoire de révolution, donc on parle de mai 68, c'était une énorme histoire de coucherie. Mais c'était dans Le Figaro.
Oui, donc cet homme de droite lit Le Figaro, forcément.
Mais évidemment. Bon, ceci dit, Nice Matin n'était pas beaucoup plus... Ils en parlent un petit peu, mais je ne vais pas vous lire tous les extraits de journaux, pardon.
Oui.
Et il raconte aussi, donc Patrick Reynal, non sans humour, les luttes fratricides entre les différentes factions de la gauche et de l'extrême gauche, des communistes au Mao, en passant par les trotskistes et autres lambertistes. Et étonnamment, c'est parmi les flics, une espèce plutôt haïe en ces temps reculés, que Reynal a choisi de mettre ceux qui... En fait, à défaut de faire un coming-out politique, il ne faut pas exagérer, c'est parmi les flics qu'il y aura ceux qui ont une vision ou des réflexions les plus pertinentes sur cette effervescence, entre guillemets. Et même ces flics qui sait... Bon, je ne vais peut-être pas vous gâcher tout le plaisir de lecture, mais c'est peut-être les seuls qui feront une remise en question de leur propre certitude. Donc ça, c'est assez bien fait d'avoir inversé, parce qu'on sait que quand même Patrick Reynal... c'est marqué sur la quatrième de couverture, si vous ne le savez pas, mais avec quand même des sympathies de gauche, même d'extrême gauche à l'époque, puisqu'il était membre de la gauche prolétarienne. Alors, ces lecteurs de Reynal, nous on en parle, c'est vrai, quand il fait un roman, et comme tu disais tout à l'heure, il se passe souvent à Nice. Les lecteurs de Reynal.
On a été jusqu'aux États-Unis avec lui, mais bon.
Tout à fait, oui. En fait, non, j'ai oublié de préciser qu'il y a quelque chose qui est assez fort dans ce roman, ce sont les dialogues. Ils rythment le roman, ils font avancer l'intrigue, et il a su retrouver, tant dans les termes que dans les manières d'époque, pour nous faire revivre une AG avec ses joutes verbales à la dialectique si particulière qui les caractérisait à l'époque. Peut-être d'ailleurs que ça doit toujours être un petit peu comme ça.
Bien on est un peu moins dans les amphithéâtres maintenant.
C'est sûr, la dialectique a peut-être dû évoluer, l'extrême-gauche est quand même moins importante qu'à l'époque peut-être. Et donc les lecteurs de Patrick Reynal, eux, qui sont habitués donc, à le lire, ne seront pas dépaysés. Ils vont le retrouver, tout son univers, les petites rues du Vieux-Nice, les virées en moto rapide, mais aussi la corruption organisée, la mise en coupe réglée de la ville par médecin, le fils. On reconnaîtra aussi certains personnages qui font une apparition ou qu'on connaît, qu'on a reconnu. Parfois, ils ont même changé de nom. Là, par exemple, apparaît un certain Corbucci qui revient souvent dans l'œuvre de Patrick Reynal. C'est un roman court, vif, enlevé, assez noir d'ailleurs, même carrément noir, malgré le bleu du ciel, enfin, qu'il n'y a pas toujours sur la Côte d'Azur, comme aujourd'hui. Un roman qui séduira les nostalgiques, mais aussi ceux qui n'ont vécu cette époque qu'à travers les souvenirs de leurs aînés ou les pages d'un livre d'histoire. On pourra la lire, on pourra découvrir cette époque à travers un roman, une fiction.
Voilà, donc on va rappeler le titre, Une ville en mai.
En mai, de Patrick Reynal aux éditions de l'Archipel.
Et maintenant un petit peu de rock, apparemment.
Un petit peu de rock, oui, parce qu'on a dit qu'on est une émission la plus rock, et tout à l'heure j'ai mis du jazz et du hard rock. Donc là, c'est un. En fait, on parle souvent de Polar Island dans cette émission, enfin, ça nous arrive avec Ingrid Asson, Stefan Mani, Warni Thorarinsson. Et bien là, on va écouter un groupe islandais, quatre jeunes qui font du bon rock, deux guitares, une basse, une batterie. C'est goûteux, ça a de l'énergie à revendre et ça fait vraiment du bien. L'album s'appelle A/B ou A sur B et le morceau s'appelle Glass House. Et j'ai pas précisé le nom du groupe, c'est Kaleo. Et voilà, donc c'était le groupe islandais Kaleo.
Et maintenant, nous avons le grand plaisir de retrouver Frédéric. Frédéric, bonsoir.
Oui, bonsoir.
C'est avec plaisir. Oh, yeah. C'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve maintenant que le téléphone est installé en Bretagne.
Tout arrive, il faut savoir patienter.
Voilà, donc maintenant que vous êtes connecté, eh bien, malgré le temps très pluvieux, très bretonnant dans notre région, je crois que vous allez nous parler de la BD de l'été.
J'allais vous dire, vous êtes sûrement sous le plein soleil sudiste, comme nous ici.
Pas du tout.
Bon, eh bien écoutez, ça ne m'empêche pas, chère Corinne, chère Jacques, chers auditeurs et auditrices, de vous dire que l'été arrive, ça se voit tout de suite, au moins d'ici. Et avec lui, des envies quoi, d'atoll, de bikini, de bande dessinée. Bah, écoutez, ça tombe bien parce que j'ai 3 albums sous la main, dont un Elsa extraordinaire du direct, s'appelle Bikini Atoll. C'est pas beau. N'est-ce pas? Donc, une BD au format comics, signée Christophe Beck au scénario et Bernard Catou au dessin. Alors, d'entrée, il faut que je vous décrive la couverture parce que c'est quand même assez spectaculaire. Ça me met l'eau à la bouche. Nous avons une jolie baigneuse chaudement habillée d'une culotte de bain rouge qui fait face à un grand requin blanc dans les eaux d'un bleu limpide. Non, alors c'est pas un album à vocation patriotique, hein, je vous rassure.
En citant 2 euros, ça nous inquiéterait un petit peu, mais bon.
Faut pas. Le titre, lui, étant un beau jaune vif avec le symbole des radiations pour le haut de Atoll. Donc, ça donne tout de suite envie d'ouvrir. Alors, ouvrons et on plonge tout de suite en guise de prologue dans les premières pages. En 1954, en plein océan Pacifique, pour une scène d'explosion expérimentale de bombes H, avec scientifiques autochtones, champignons et tout. Et voilà, ça se dure quelques pages et nous revoici de nos jours à bord d'un un voilier de plaisance avec 9 personnes à bord, 6 hommes, 3 femmes, qui s'adonnent aux joies de la pêche et de la plongée.
D'où le bikini et le requin.
Il faut être subtil parfois en bande dessinée pour faire passer des messages. Alors déjà, le poisson qui ramène à bord est une tête un peu bizarre. Et après, au cours de la plongée, une des jeunes femmes, faut-il le préciser, les protagonistes de cette histoire sont en pleine possession de leurs moyens et ont des attributs physiques assez spectaculaires. Et une des jeunes femmes donc voit une silhouette de requin assez flippante au loin. Mais ils oublient tout ça assez vite parce que leur guide met le cap sur l'atoll de Bikini pour un repos bien mérité. Et là, le groupe retrouve la trace de la base nucléaire abandonnée il y a bien des années, s'installe non loin. Et pendant que le guide, encore lui, rappelle un peu l'historique des essais nucléaires sur l'île et les effets sur la population, non prévenu de ces essais, est resté sur place. Eh bien, voilà, la nuit arrive sur ces entrefaits et quelle idée, une des jeunes femmes a la mauvaise idée de s'aérer pour sortir un petit peu et elle disparaît.
Donc là, toujours habillée de son bikini
Oui, parce qu'elle a chaud. C'est un petit peu, c'est assez simple comme scénario. Et le lendemain, quand les autres, le lendemain, quand les autres se rendent compte de cette disparition, ils décident de se scinder en binôme. Et là, c'est la deuxième mauvaise idée parce que le deux groupes se fait décimer petit à petit par un mystérieux tueur. Je m'arrête là parce que vous voyez bien de quoi il retourne, je pense. On est en plein récit d'horreur ou pour être même précis dans le sous-genre qui s'appelle le slasher, c'est-à-dire des histoires où un tueur décime tout un groupe d'individus, de préférence à l'arme blanche, avec moult détails hémoglobinesques. Donc c'est ça, Bikini Atoll. C'est du slasher movie parce que c'est un genre cinématographique à la base, hein.
Flasher movie, gore, ça va plus. Alors c'est plus à la mode.
Alors c'est du silence. C'est une catégorie du gore, le slasher.
Ah d'accord. J'en apprends.
Donc là c'est en case en noir, blanc et gore, comme j'allais vous le dire exactement. Donc j'avais oublié un petit détail sur la couverture, voire même 2. Donc il y a un bel autocollant recommandé par Mad Movies, qui est la revue spécialisée dans le cinéma, disons parallèle. Et l'autre détail, le nom de la collection s'appelle Flesh and Bones. Donc, vous voyez, alors ça c'est vraiment, pourquoi je vous parle de ça, c'est du polar un petit peu d'un genre particulier, mais c'est quand même extrêmement bien foutu, c'est flippant à souhait, le scénario est vraiment excellent, et les dessins de Bernard Catou, c'est un réalisme assez vraiment spectaculaire. Alors, ça révolutionne pas le genre, parce qu'il y en a eu des centaines, mais en BD, c'est pas courant, et c'était une bonne idée. Alors, une idée que l'éditeur Glénat s'est peut-être dit, on va exploiter un petit peu, et ils ont fait une collection. Donc j'en ai lu 2 autres, j'ai eu ce courage. Donc, le second s'appelle Sonar, de Sylvain Ronberg au scénario et Chi Yang Hong au dessin. Alors cette fois-ci, on est en 94 sur un chalutier en Sicile, où sur un coup de sang un peu inexplicable, un pêcheur massacre ses quatre collègues. Bon, voilà. Puis après, petit bond dans le temps, on se retrouve le 11 juin 2016 à Sydney. Alors là, vous voyez, c'était il y a 4 jours. Je suis quand même en phase avec l'actualité. Oui, là, trop fort. Et nous est présentée Alice, cette fois-ci, une surfeuse. Mais là, elle est aussi plongeuse hors pair, ce qu'on va vite comprendre, parce qu'elle va rejoindre une équipe de chasseurs d'épaves qui vient de localiser un yacht de luxe des années 60 qui contient une collection d'art. De vieux objets d'art, oui.
Alors Frédéric, juste une question, je fais un peu ma blonde là, mais c'est le côté un peu, ça fait peur, il y a de l'hémoglobine et tout, mais il y a toujours des yachts et des bateaux ou
J'allais venir là.
C'est une coïncidence
Justement, là, alors on est sur une île dans l'autre, là on est plus sur le bateau en lui-même, et puis en fait ça plonge beaucoup, ça va bien dans les tréfonds des abysses. Il y a un peu une ambiance à la film Abyss que vous avez peut-être vu, mais encore une fois en plus gore, et le dessin il est encore vraiment là une fois de plus ultra réaliste. C'est le jeune homme qui s'appelle Xi Yang Hong, est un Malaisien qui a bossé sur Dawn of the Dead d'après Romero. Donc vous voyez, encore une fois, là on est dans le gore. Alors ça, ce sont les deux des, il y en a quatre en tout, hein, j'en ai lu trois. Ces deux-là sont plutôt, on va dire, sanglants. Mais le troisième, il est, alors j'ai mis un peu plus léger et raffiné, c'est Le Cygne de Philippe Thirault au scénario et Manuel Garcia au dessin. Alors là, on est dans un autre registre parce que c'est plutôt celui de la malédiction et de l'inexpliqué. Alors l'histoire, je vous dis bêtement le résumé, simplement le résumé qui est court, qu'on trouve au dos du livre. Donc, Alex Morsen a failli être un écrivain à succès. Son premier livre, Perte d'Auréole, a été un best-seller, mais aujourd'hui, c'est un homme aigri et sans inspiration. Sa bonne étoile semble l'avoir quitté. À fleur de peau, il ne supporte plus sa voisine du dessus qui joue du piano toute la sale journée. Elle devient l'excuse de son incapacité à se concentrer et à créer. Un jour excédé, Alex lui jette un sort qu'il a trouvé dans un livre traitant de sciences occultes. Il ne peut se douter des répercussions que ce geste va avoir sur la pianiste et surtout sur lui et sa famille. Et fais attention à ce que tu souhaites, cela risque d'arriver, dit le proverbe. Alors, il va se passer plein de choses pas jolies, mais avec un ton plus feutré que dans la folie que les deux précédents. Alors, le scénario, il est de Philippe Thirault, comme je vous le disais à l'instant. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un romancier par le passé, on va dire, qu'il n'écrit plus de romans, quelques nouvelles, mais il avait fait une trilogie qui s'appelait, elle n'avait pas de nom, mais les trois bouquins, c'était Hémoglobine Blues, Heureux les imbéciles, Speedway, c'était chez Au Serpent à Plumes, c'était réédité en point seuil, ça je vous recommande, c'est complètement barré, et sur son site, pour vous qualifier le style de Thirault, il s'est lui-même, il a mis un petit extrait de Lire, et de la revue Lire, du magazine, qui disait, avec son air de ne pas y toucher, sa naïveté presque décadente, sa volonté forcée de raconter le détail qui dégoûte, Thirault est l'auteur le plus jubilatoire du genre noir. Il a réinventé le gore pour en faire un genre parfaitement littéraire, tout en épissant le tout de références cinématographiques entre Mocky et les frères Cohen, fermé la parenthèse et les guillemets. Et on retrouve tout ça dans Le Cygne, c'est-à-dire que lui, donc cette BD, et tout ce qu'il écrit, tout son univers de romancier qu'il avait là, il l'a réinjecté dans la bande dessinée, et voilà, cette fois-ci, le dessinateur qui l'accompagne, que je ne connais pas, David Garcia, Garcia, c'est un trait beaucoup plus charbonneux.
C'est pas Sergent, c'est sûr. C'est David.
Donc en résumé, si je reprends les phrases d'accroche, vous avez le dernier endroit où faire du tourisme, Bikini Atoll, quand une terreur ancestrale jaillit des profondeurs, ça c'est Sonar, et la petite musique de l'enfer, ça c'est Le Cygne. Alors j'ai pas lu Sunlight, le quatrième de la collecte, mais il n'y a pas de raison que ce soit pas du même tonneau, donc en fait vous voyez bien, avis aux amateurs, c'est particulier, mais c'est vraiment vraiment très bien fait, j'étais surpris dans le bon sens, je m'attendais pas à ce que ça m'emballe autant que ça, et c'est assez plaisant. Bon, ça, comme une fois de plus, ça ne révolutionnera pas le genre, mais c'est comme une niche, et puis Glénat se lance là dans son label Glénat Comics, c'est-à-dire que c'est du comics à la française. Donc voilà, il y en aura d'autres, à nouveau par Philippe Thirault, j'en ai vu, une histoire de serial killer sur la route. Alors voilà, ça peut faire un petit peu redite tous ces albums-là, mais pour passer l'été calmement, c'est bien, c'est sympa.
C'était bien d'en parler en même temps, et puis ça laisse donc l'été aux auditeurs pour le découvrir. Frédéric, on va vous remercier pour cette saison, puisque c'est notre dernière émission. On est très content que vous ayez pu y participer.
Oui, je suis de temps en temps absent, aux abonnés absents, mais là j'étais content d'être là.
Voilà, nous aussi on était très contents, donc on va vraiment vous remercier, vous souhaiter un bel été, de très belles découvertes dans les BD, et puis les amateurs du genre polar et du genre BD peuvent retrouver vos chroniques et plein d'autres sur votre blog BD Polar, donc n'hésitez pas, il y a plein plein de conseils pour passer un bon été. Donc merci beaucoup, au revoir et puis à très vite.
Eh ben merci Corinne et Jacques et à bientôt les amis.
À bientôt. Voilà, très vite. C'est la fin de la saison, c'est la fin de nos émissions, mais on se retrouve à la rentrée. Donc on vous souhaite un bel été, plein de soleil à l'extérieur et plein de romans noirs.